Homélie du dimanche 15 novembre 2020. Nous avons quatre textes. Le livre des Proverbes, chapitre 31, versets 10 à 31. Le psaume 22. La première lettre de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5, versets 1 à 6. Et Matthieu, chapitre 25, versets 14 à 30. Dans le premier texte, nous avons ceci. Une femme parfaite et qui la trouvera? Elle est précieuse plus que les perles. Son mari peut lui faire confiance, il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur et non pas sa ruine tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin. Ses mains travaillent volontiers. Elle tend la main vers la quenouille. Ses doigts dirigent le fuseau, ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre. Elle tend la main au malheureux, le charme est trompeur et la beauté s'évanouit. Seule la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail et qu'aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange. Nous sommes invités, peut-être aujourd'hui, à écrire ce texte en 2020. C'est quoi la femme parfaite en 2020? Vous écririez quoi et moi j'écrirais quoi? Je vais pas répondre de suite parce que je suis un petit peu embêté, mais c'est un bel exercice, je pense. Et puis je crois qu'il faut faire un deuxième exercice. C'est quoi l'homme parfait? Et là, dans ce texte, il s'agit d'un couple. Son mari peut lui faire confiance. Il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur et non pas sa ruine tous les jours de sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire dans l'autre sens? D'abord, qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase? Qu'est-ce que nous, comment est-ce que nous on l'entend? Alors, je crois qu'il faut sortir du contexte de l'époque, parce que il ne s'agit pas de, enfin, c'est la même femme, bien sûr, mais il ne s'agit pas de copier ce que les auteurs bibliques ont voulu écrire, en lisant cela, en écrivant cela. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui qu'être une femme? Qu'est-ce que c'est qu'être un homme? Nous sommes dans une société où on entend, en tout cas, peut-être pas, sûrement pas tout le monde d'ailleurs, hein, mais on entend gommer les différences. Nous sommes liés à, souvent à la théorie du genre. On n'élève pas une fille comme une fille, on n'élève pas un garçon comme un garçon, on l'habillera pas en rose, l'autre en bleu. Alors certes, hein, moi je suis pas assez calé pour avancer là-dessus, mais n'empêche que je garderai pour principe que je suis un garçon et quelqu'un d'autre est une fille. Après, ça peut être compliqué dans nos têtes. Mais la base, et à partir de la base dont on travaillera, mais nous sommes des hommes et des femmes. Et comment est-ce que dans notre foi, nous sommes reliés à Dieu? Comment est-ce que je développe l'homme que je suis? Et je vous invite, si vous le souhaitez, à trouver et à lire ce livre de Anne-Marie Pelletier aux éditions du Cerf, L'Église des femmes avec des hommes. Je crois que nous avons à beaucoup réfléchir là-dessus. Quel est, par exemple, qu'est-ce que nous disons de Marie, la maman de Jésus? Est-ce que c'est vraiment une femme ou est-ce que c'est une femme parfaite, mais qui du coup n'est plus une femme? C'est une sorte... Alors nous, on dirait de super-héros. Mais non. Anne-Marie Pelletier dit « Consentira-t-on à reconnaître que Marie, mère de Jésus, participe de cette vérité qui peut effaroucher nos représentations pieuses ?» Et je la lirai, c'est, elle cite un texte de Christian Bobin, qui me touche beaucoup, déjà comme auteur, et puis d'ailleurs comme texte. Cette vérité qui rend la foi au réel de Dieu et de l'humanité en les rapprochant dans une même complicité. Au risque, il est vrai que le monde clérical éprouve l'inconfort de la rencontre avec les femmes réelles, dans leur altérité forcément plus gênante que les représentations de l'idéal. Et oui, qu'est-ce que c'est que cette altérité, c'est-à-dire l'autre, cette altérité que je vais chercher, de laquelle je vais me rapprocher? Christian Bobin dit ceci, c'est la simplicité des femmes et c'est leur solitude. Cette force de solitude en elles, en chacune d'elles, cette manière qu'elles ont de tenir leurs enfants, leurs maris, leurs amants, le bleu du ciel et l'ordinaire des jours, à bout de bras. Anne-Marie Pelletier dit, Marie, il ne faudrait pas en faire une créature hors sol, qui n'appartient plus à notre humanité incarnée et sexuée, et qui devient la figure disponible à toutes les projections qui inventent le féminin à distance de femmes réelles. C'est très important de voir cela, et de le voir aussi vis-à-vis des hommes, mais on ne situe pas Marie dans le monde de Jésus comme Joseph, par exemple. Marie, elle est l'Immaculée Conception, elle est la mère de l'Église, elle est la mère du Fils de Dieu, elle est l'épouse du Saint-Esprit. Elle est la mère de Dieu, on dit même. Elle a beaucoup de titres, tous ces titres sont donnés dans l'Église. Et ces titres sont au service de quelle humanité? Ces titres sont au service de quelle humanité? Qu'est-ce que c'est cette femme avec laquelle j'ai envie d'entrer en relation? Qu'est-ce que c'est que cet homme avec lequel j'ai envie d'entrer en relation? Dans la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens, pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frère, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit, quand les gens diront « quelle paix, quelle tranquillité », c'est alors que tout d'un coup, tout à coup, la catastrophe s'abattra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frère, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Quel est ce jour du Seigneur dont parle Paul? Est-ce que c'est la mort? Est-ce que c'est la venue de Jésus qui veut nous parler? Est-ce que c'est la venue de Dieu sur la terre? Une deuxième fois, est-ce que c'est la fin du monde? Moi, j'aurais tendance à dire que le jour du Seigneur, pour moi, c'est le jour où Dieu porte très fortement le désir de me parler. Le moment de la journée où Dieu veut s'approcher de moi. Et là, j'entends le chapitre 25 de Matthieu. J'avais faim, tu m'as donné à manger. J'avais soif, tu m'as donné à boire. J'étais nu, tu m'as habillé. J'étais un étranger, tu m'as accueilli. J'étais en prison, tu es venu me visiter. J'étais malade, tu es venu me voir. Oui, le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Je ne m'y attends pas. La vie coule. Et à un moment donné, alors il appelle ça la catastrophe s'abattra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte. Je pense à une amie qui me disait, je viens te voir parce que tout va bien pour l'instant, et j'aimerais savoir quand c'est que ça va aller mal. J'ai pas envie de raisonner au niveau de la vie comme ça. Si ça va bien, ça va bien, mais je peux me préparer parce que ça va bien à accueillir l'autre, à accueillir un enfant, à demander de l'aide, à offrir mon aide. À demeurer à côté de quelqu'un. Vous n'êtes pas, vous frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Au niveau de la foi, le fait de croire et de se dire, nous ne sommes pas dans les ténèbres, nous sommes dans la lumière de Dieu, nous avons une annonce. Jésus-Christ. Nous sommes avec Dieu, qui c'est cet homme? Notre humanité est forte. Et si je reprends le premier texte, qu'est-ce que c'est que la perfection de mon humanité? Une femme parfaite, un homme parfait. Moi je pense que c'est celui, ce qui me vient là maintenant, c'est celui qui vit, c'est si possible, à fond son humanité, qui accepte d'être un être humain, un homme, une femme, un enfant, un vieillard. Vous êtes tous des fils de la lumière, des filles de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. C'est peut-être ça, sortir du péché. Le désir, c'est déjà la sortie. Je ne veux pas rester dans cet état. Je veux accéder à la lumière. Alors ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Nous sommes à une période où nous pouvons nous endormir. J'ai un ami, quelqu'un que j'aime bien, qui est pasteur, évangélique, et on parlait de nos communautés. Et il me dit, ben moi c'est un petit peu pareil, c'est comme toi. Les gens attendent que je les appelle. Et nous nous disions, d'abord nous, pasteurs et prêtres, qui c'est que nous appelons chaque jour? Une personne, deux personnes. Et vous, qui c'est que vous appelez chaque jour? Une personne, deux personnes. Ça peut être des amis, hein. Juste pour faire coucou. Pour sortir de ce sommeil, ne restons pas endormis comme les autres. Là, c'est la période du Vendée Globe, hein. Et avant qu'ils partent, il y avait des reportages sur le sommeil des marins, de ce défi, de ce tour du monde. Est-ce que nous sommes, nous aussi, en état de veille? Est-ce que notre religion est endormie? Est-ce que notre foi est endormie? Où est-ce que j'en suis de ma lecture biblique, de l'étude de la religion? Soyons vigilants, et restons sobres. Quant au quatrième texte, c'est l'évangile de Matthieu, chapitre 25, mais versets 14 à 30. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole, c'est comme un homme qui partait en voyage, il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités, puis il partit. Quels sont les biens que Dieu nous a confiés? Quels sont les biens que la vie nous a confiés? Je suis qui? Je vous invite à noter les capacités que vous avez, les compétences que vous avez, les qualités que vous avez, les dons que vous avez reçus, les charismes que vous avez. Je suis là, sur la terre, dans l'église, et qu'est-ce que je fais? J'attends, je suis en sommeil, je râle, je m'émerveille, qu'est-ce que je fais? Il Il partit. On ne dit pas ce qu'il a dit d'ailleurs. Il remit une somme d'argent. Et aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir, en gagna 50. Pareil pour celui qui en avait 2. Mais celui qui en avait 1 alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître du serviteur revint et il leur demanda des comptes. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais j'essaye de garder les mêmes mots en français. Est-ce que Dieu va me demander des comptes? En tout cas, Dieu va me dire, t'as fait quoi de ta vie? Ça, j'en suis, enfin, en tout cas, moi, j'attends cette question pour moi. Pour vous, j'en sais rien, mais t'as fait quoi de ta vie, Eric? Est-ce que j'ai peur de Dieu? Il cacha l'argent de son maître. Longtemps après, il demanda des comptes. Et, bon, celui qui a reçu 5 talents, il va en recevoir 5 autres, le deuxième, etc. Il va entendre, très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle en peu de choses, pour peu de choses, en considérer beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. Et celui qui avait reçu 1 seul talent s'approcha et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Est-ce que c'est pas le premier péché d'Adam et Ève? J'ai eu peur et je me suis caché. C'est la réponse d'Adam à Dieu dans la Genèse. J'ai eu peur et je me suis caché. Là, c'est « j'ai eu peur et j'ai caché mon talent ». C'est la même chose. Est-ce que nous sommes cachés aux yeux de Dieu? Enfin, est-ce que nous nous cachons des yeux de Dieu? Ou est-ce que nous acceptons d'aller vers lui avec ce que nous sommes? Mais j'ai envie de dire, est-ce qu'il faut que je m'excuse auprès du Seigneur ou de celui qui a écrit ce texte? Mais est-ce qu'on peut avoir peur? Peut-être de Dieu aussi, peut-être de la vie, peut-être de la conception de Dieu que l'on nous a donnée, que l'on nous a comme injectée. Avec l'étude de la religion, avec le catéchisme, quel est votre avis sur Dieu? Comment vous le décririez? Comment le décririez-vous? Comment le décririez-vous? Est-ce que j'ai peur de Dieu? Est-ce que je me cache? Est-ce que je cache l'argent que j'ai reçu? Alors, un talent, hein, c'est une somme d'argent, mais est-ce que je cache l'argent que j'ai reçu? Est-ce que je cache les capacités que j'ai, les compétences? Ou est-ce que je prends des risques? Et là, j'entends cette phrase, qui n'est pas textuelle, mais du pape François. Je préfère une église qui prenne des risques à une église qui soit malade. Je préfère une église qui se mette en danger pour l'amour, en danger pour dépenser l'argent, en danger pour créer des lieux, pour offrir du lien. Pour nourrir, vêtir, donner à boire, visiter. Et je suis, moi personnellement, un petit peu en difficulté à la fin du texte, mais je l'accueille, je prie Jésus pour qu'il me donne l'esprit, pour que je trouve un jour une explication. Si un jour il y a un bibliste qui peut me donner une explication. Son maître lui répliqua, serviteur mauvais et paresseux. Le texte ne dit pas « je suis mauvais, je suis paresseux, je n'avais rien à faire de toi, je n'avais rien à faire de toi ». Non, le texte ne disait pas ça en fait. Le texte parlait d'un homme qui avait peur. Il y a une époque aujourd'hui où on nous dit « mais faut pas avoir peur, hein, sortez, enfin, etc. N'aie pas peur de ce virus ». Ben si, moi j'ai peur de ce virus. J'ai peur pour mes amis, j'ai peur pour des gens qui sont en réanimation, bien sûr que j'ai peur. Comment être serein devant une pandémie, devant des maladies? J'ai peur pour ceux qui ne sont pas opérés d'opérations dites normales. J'ai peur pour cet hôpital qui va peut-être enlever sa réanimation pour créer des lits nouveaux pour le Covid. Je me dis, mais c'est quoi cette sagesse qui, à mon avis, n'en est pas. Et en même temps, c'est très compliqué parce que je ne dis pas que j'ai la solution. Je dis juste, que nous avons tous besoin d'être soignés quand nous sommes malades. Et qu'il faudrait développer du soin pour ne pas choisir. Et cela reste très complexe. Et nous avons la vertu de l'humilité. Nous devons vraiment nous envelopper d'elle. Je ne veux pas râler. En tout cas, je ne veux pas m'entraîner à ne faire que râler. Je ne veux pas croire que nous sommes surveillés, qu'il y a un complot contre nous. Je veux espérer que les responsables font ce qu'ils peuvent. Et j'entends ce discours qui pour moi est un discours humain. Nous voulons prendre soin de vous. Et j'aime beaucoup entendre cette phrase. Nous voulons prendre soin de vous. Et je crois, je suis dans cette foi que notre gouvernement prend soin de nous. Et ils font ce qu'ils peuvent. Si j'étais Premier ministre, quelle conférence de presse j'aurais faite hier soir? Qu'est-ce que j'aurais dit au peuple français? Quel est le texte que j'aurais écrit? Allez-y, écrivez-le, et moi aussi. Moi, je serais un petit peu en panique, hein. Je remercie ces gens d'être là. Je trouve très touchant. Et je n'entends pas de discours, alors bien sûr on peut me dire, ouais, il y a un autre derrière. J'en sais rien en fait, tant qu'on ne me l'a pas dit. Mais je ne trouve pas de discours qui dénigre l'humain. Mais j'entends bien que les petits commerces sont fermés. J'entends bien que les restaurants sont fermés. J'entends bien qu'il y a beaucoup de situations complexes, les salles de sport et tout ça. Et avec ce texte, je suis un peu en panne. Tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse de grains là où je n'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque. Et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent, donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures, là il y aura des pleurs et des grincements dedans. Est-ce que nous ne sommes pas dans une mémoire de l'Ancien Testament? Et est-ce que je n'ai pas besoin, et nous aussi, de garder cette mémoire pour avancer en se disant, mais oui, parfois, ben moi je suis un peu comme ça, si ça marche pas, ben, je le mettrai dehors, je ne lui parlerai plus, je n'inviterai plus à table, et on fera plus de réunion de famille avec lui. Jetez-le dans les ténèbres extérieures, là où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Moi j'ai une espérance. Je vous la partage. Pour moi, les ténèbres extérieures, c'est le fait de ne pas vouloir aimer. La décision, je ne veux pas vous aimer. Ça serait ça. Si j'étais capable de dire ça, ou quand je suis capable de dire ça, alors je suis dans les ténèbres extérieures. Je ne peux pas être touché par Jésus, son Père et l'Esprit. Je ne peux pas être illuminé. Je n'appartiens pas à la lumière, j'appartiens aux ténèbres. Je ne suis plus un fils de la lumière à ce moment-là. Je suis un fils des ténèbres. Alors oui, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Parce que Ce ne sera pas forcément une punition, mais ce sera mon état. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de râler. J'ai envie de m'énerver. J'ai envie de combattre. Que ces textes, durant cette journée de dimanche, ou quand vous entendrez cela, mais nous aident à vivre ensemble, à nous dire comment je peux aider chacun de nous à vivre avec le don qu'il a reçu, le bien qu'il a reçu. Il leur confia ses biens. Quelqu'un en a 5, quelqu'un en a 2, quelqu'un en a 1. Personne n'en a 0. Comme disait Thérèse de Lisieux, je vois le paradis comme ça. Un ensemble de contenants, un verre en forme de dé à coudre, une barrique de bière ou d'alcool ou d'eau. Et nous serons tous remplis à ras-bord. Nous ne pourrons pas, même tous les plus petits, nous ne pourrons pas être jaloux des autres, parce que si on recevait ce qu'avaient les autres, ça déborderait. Et je crois qu'elle disait, mais il faudra vérifier, toute ma vie, je veux augmenter le contenant pour recevoir encore plus d'amour au fur et à mesure de ma vie et de ma vie éternelle. Amen. Le psaume 22. Heureux qui craint le Seigneur, qui marche selon tes voies, qui se nourrira du travail de tes mains. Heureux es-tu à toi le bonheur, ta femme sera dans ta maison, comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table, comme des plants de l'outil. Voilà comment on sera béni, l'homme qui craint le Seigneur. De Sion que le Seigneur te bénisse, tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. De Sion que le Seigneur te bénisse, tu verras le bonheur, tu verras le bonheur, tu verras le bonheur. Thank you.